Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. On a commencé une petite série sur Noël. La semaine dernière, Samuel a évoqué Noël et la politique. On voudrait essayer de repenser à Noël dans tout ce qu'il a bouleversé. Dans notre société, dans nos vies. Et donc, je vous invite à chercher dans votre Bible le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu. Et on va en faire la lecture. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer Noël. C'est un peu fort là pour moi. Noël et l'éthique sexuelle. Là, c'est un peu faible. Je vous invite à réfléchir à ça avec moi. Un Noël révolutionnaire dans le domaine de notre sexualité. Dans la première partie du chapitre 1 de l'évangile de Matthieu, on trouve la généalogie de Jésus, le fils de David, le fils d'Abraham, et au verset 16, il est dit que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Ainsi, Matthieu présente l'humanité de Jésus et sa légitimité aussi pour la succession de David sur le trône d'Israël. Et puis dans les versets suivants, on trouve le récit de sa conception miraculeuse qui atteste sa divinité. C'est ce passage-là que je voudrais qu'on lise. Matthieu chapitre 1, verset 18, on va lire jusqu'au verset 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Au verset 23, il nous est dit qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Si bien qu'à la fin du premier chapitre de l'évangile de Matthieu, on a cette vérité éclatante que Jésus est à la fois un homme inscrit dans une lignée royale et à la fois parfaitement Dieu, conçu par le Saint-Esprit sans relation sexuelle. Notre société hypersexualisée a fait voler en éclats, eh bien, tout cadre pour les relations sexuelles. Selon elle, notre société, tout est acceptable dès l'instant où l'on est entre adultes consentants. Vous avez certainement entendu cette manière de parler. Entre adultes consentants, on peut tout se permettre. Et la majorité sexuelle, le fait d'être adulte, eh bien, varie d'un pays à un autre, en Europe en tout cas, entre 14 et 18 ans. En France, la majorité sexuelle est 15 ans. Ça pourrait sembler une évidence que les personnes doivent être consentantes, mais le mouvement #MeToo ou les révélations récentes mettant en cause des personnalités politiques, cette semaine, un athlète de haut niveau. Et puis le scandale des abus au sein de l'Église catholique ont prouvé que ce n'était pas si évident que cela. C'est très révélateur parce que ça touche toutes les couches de la société, tous les niveaux, toutes les professions, toutes les cadres. Et ça montre que tous nos désirs dans le domaine sexuel ne sont pas nobles, légitimes. Et saint. il existe des formes de sexualité néfastes. Et tout le monde devrait exercer un certain contrôle sur ses désirs sexuels. C'est ce que dit Sam Olberry, qui a sorti un livre récemment qui s'intitule « Pourquoi Dieu se mêlerait-il de ma sexualité ?» Très intéressant. Et Sam Olberry montre que tout le monde veut un cadre. Même les plus dévoyés mettent une limite à leur sexualité. Et ce qui distingue l'éthique chrétienne, ce n'est donc pas d'établir des limites, mais plutôt de préciser là où elles se situent et pourquoi ces limites. Ce qui est en jeu, c'est la nature donc, de ces limites. On aurait tendance à dire simplement « il faut s'aimer ». Si on s'aime, tout va bien. Mais on se rend compte aussi qu'il y a différents types d'amour, formes d'amour. J'aime ma femme, j'ai des relations sexuelles avec elle. Mais j'aime aussi ma mère, j'aime mon frère, ma sœur, j'aime mes enfants, j'aime ma voisine, mes collègues. Mais on se rend bien compte que ce que l'on met derrière cet amour-là n'est pas nécessairement un amour sexualisé, ou je ne sais pas comment le dire. Et si je me trompe, ou si j'enlève toutes les cadres de ma relation d'amour avec les différentes personnes, alors je vais provoquer des choses affreuses que malheureusement on découvre dans notre société. Noël nous offre le récit d'un modèle pour notre sexualité. Et c'est beau que Dieu ait pensé à cela pour nous. Avez-vous jamais pensé pourquoi Dieu a choisi une jeune femme qui était déjà fiancée à un homme pour s'incarner ? La parole de Dieu, elle est claire. En Deutéronome, chapitre 22, versets 23 et 24, il est dit « Si une jeune fille vierge, c'est le cas de Marie, est fiancée, pareil, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Dieu connaît sa parole, il sait que les choses doivent en être ainsi, et pourtant il a permis cette situation. Quelles auraient été les autres options pour Dieu? Il aurait pu prendre une femme mariée, attendre que Marie soit finalement mariée, définitivement installée avec Joseph. Mais dans ce cas, sa conception surnaturelle aurait été difficile à croire, en particulier pour les époux qui auraient eu des relations. Même avec l'intervention d'un ange, la divinité de Christ aurait été mise en doute. L'autre possibilité, ça aurait été qu'il choisisse une jeune femme vierge, célibataire, sans engagement, sans fiancé. Jésus serait alors né sans avoir un père protecteur, un pourvoyeur, et surtout sans lignée légitime avec le trône, pour le trône. Il fallait donc que le Fils de Dieu naisse dans cette parfaite situation. Deux jeunes fiancés engagés, mais n'ayant pas encore de relation sexuelle. Et il établit ici un modèle pour nos familles et une éthique sexuelle que l'on peut résumer ainsi en fait. Les relations sexuelles sont réservées au cadre du mariage d'un homme et d'une femme. Les fiançailles juives étaient un engagement solennel en vue du mariage. C'était une période pendant laquelle les deux fiancés se préparaient en vue de leur union. Lui, il préparait une place pour sa dulcinée. Il préparait souvent dans la propre maison familiale une demeure, un espace pour elle avec tout le mobilier. C'est ce que je me souviens ce que j'ai fait. J'ai vendu ma vieille deux chevaux pour acheter mon lit. Et elle préparait eh bien tout ce qui allait être nécessaire pour le la vie ensemble, la vie commune. Déjà, en tant que fiancé, il reflétait au fond une vérité plus grande. Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il est en train de reprocher ici aux Corinthiens qui ont cru de se laisser détourner de Christ pour suivre des séducteurs, des faux docteurs. Il dit non, faites pas ça. En Jean 14, versets 1 à 3, Jésus dit, c'est juste avant son arrestation, il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ainsi, les croyants sont fiancés à Jésus-Christ. Ils attendent que le Seigneur revienne les prendre avec lui pour célébrer les noces et être toujours avec lui. C'est ce que nous enseigne Apocalypse chapitre 19 et chapitre 21. La Bible commence et se termine par un mariage. Vous vous rendez compte? On commence avec un mariage, on termine avec des noces dans le ciel pour l'éternité. Et c'est cela qui montre à quel point le mariage et cette union est importante au regard de Dieu. Nous, ça serait triste de dénaturer son plan. Et donc, il nous faudrait préserver notre pureté sexuelle avant le mariage. Au verset 18, il est clairement dit ici, hein, c'est concentré, elle dit « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. » Avant qu'ils aient habité ensemble. Vous avez noté, deux jeunes, un homme, une femme, qui ont des sentiments amoureux l'un envers l'autre et qui ont décidé de se fiancer. Ils n'habitaient pas ensemble. Ils ne couchaient pas ensemble, mais ils préparaient leur union à venir. Les deux évangiles de Matthieu et de Luc nous rapportent la naissance de Jésus. Ils affirment que Marie s'est trouvée enceinte simplement par l'action du Saint-Esprit. La chose, rassurez-vous, elle semblait aussi incroyable à l'époque. Pour convaincre Marie, pour convaincre Joseph, il a fallu qu'un ange vienne devant eux et se révèle à eux pour leur dire que la chose était de Dieu. Le Dieu qui a créé l'univers, à partir de rien, peut créer un bébé sans l'aide d'un père humain. Le contraire serait surprenant. Et ce n'est pas le seul miracle qu'il nous est rapporté dans les évangiles. Et quand Joseph apprend la chose, il est dévasté. Quand il apprend que Marie est enceinte, il est dévasté. Il doit se sentir trahi. Mais il aime Marie. Il remet son engagement en question parce qu'il ne va pas épouser une femme qui est enceinte d'un autre. Il sait que ce n'est pas lui. Et donc il va chercher à rompre secrètement. Alors qu'il y pense, un ange lui apparaît au verset 20 et lui donne l'explication divine. Joseph, au fond, devra agir comme un père adoptif. Le nom et le sexe du bébé lui sont donnés par l'ange, ainsi que sa mission. La mission, c'est qu'il devra sauver son peuple de ses péchés. Tout est conforme aux Écritures, versets 22 et 23. Voilà ce qui permettait à Joseph de reconnaître l'œuvre de Dieu. Et l'ange lui dit, voilà, c'est l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Cette promesse que la Vierge deviendra enceinte, qu'elle enfantera un fils et qu'on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Voilà ce qui a réconforté et encouragé Joseph. La naissance surnaturelle de Jésus est le seul moyen d'expliquer sa vie surnaturelle qu'il a menée. Un sceptique qui niait que la naissance virginale de Jésus a demandé un jour à un chrétien, hey, « Hé, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que cette personne là-bas, elle est née par le Saint-Esprit, sans l'intervention d'un homme. Est-ce que tu me croirais ?» Ouais, le chrétien a répondu, « Oui, je te croirais, à condition que cette personne vive la vie de Jésus. » La preuve la plus évidente de la naissance surnaturelle de Jésus, c'est ça, et de sa divinité, c'est sa vie elle-même. Alors, Joseph prend sa femme avec lui, vous avez vu ça, versets 24 et 25. Peu de temps après l'annonce de l'ange, il semble que le mariage ne se soit pas fait en grande pompe, probablement que les familles n'étaient pas trop chaud. Mais il est dit qu'il ne la connaîtra pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Matthieu établit ainsi clairement que les relations conjugales normales ont commencé après la naissance de Jésus. Le fait que dans l'évangile de Matthieu, on nous ait parlé des frères et des sœurs de Jésus, que l'on cite le nom de ses frères, eh bien nous assure au fond que Marie n'est pas restée vierge perpétuellement comme certains le prétendent. Et ça, c'est la seconde grande vérité de l'éthique sexuelle chrétienne. Les relations sexuelles dans le mariage sont un cadeau de Dieu dont il faut profiter. Dieu nous a fait un cadeau aux époux pour profiter des relations sexuelles. Elles sont données en vue de la procréation, bien entendu, mais pas seulement, en vue aussi de la célébration de l'union, de la commémoration de l'alliance que l'on a faite entre mari et femme. Et c'est une célébration, on commémore cela, on se rappelle. Parfois, on attend la Saint-Valentin pour se rappeler qu'on est amoureux. C'est trop peu. Il faut faire ça bien plus souvent. Et on célèbre son engagement. Puisque chaque être humain est extrêmement précieux, puisque fait à l'image de Dieu, il est logique que le moyen de sa conception le soit aussi. Très précieux. C'est Dieu qui a inventé le sexe, pas nous. Nous ne l'avons pas découvert à son insu. Il a lui-même créé les organes du plaisir pour la joie des mariés. Notre époque s'insurge, et je comprends cela, en disant « Mais pourquoi il n'y aurait que les mariés qui auraient le droit au cadeau ?» Dans notre société, on voudrait que tout le monde puisse avoir des relations sexuelles parce qu'on prétend que l'on peut donner du sexe sans donner sa personne, sans s'unir vraiment à l'autre, émotionnellement, psychologiquement. On dit, mais non, c'était juste du sexe. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le sexe implique plus que nos organes génitaux. Il engage notre personne tout entière. C'est particulièrement manifeste dans les expériences négatives. Celui ou celle à qui l'on a fait du mal sur le plan sexuel souffre dans tout son être, pas seulement physiquement, mais plus encore psychologiquement, émotionnellement. Les relations sexuelles sont données pour unir deux époux qui se donnent l'un à l'autre. C'est le fait de pouvoir se donner qui permet qu'on va vraiment s'unir physiquement également. Je prends un exemple. Si j'offre à ma femme, c'est un exemple, si j'offre à ma femme le dernier Thermomix, inutile de venir me démarcher à la fin du culte, le tout dernier. Ça serait un cadeau généreux. Mais c'est peut-être aussi très égoïste. Peut-être que je laisse entendre carrément à ma femme qu'elle cuisine mal et que j'en ai marre de manger. Je voudrais manger de la bonne cuisine. Et donc, je lui donne un Thermomix pour que je mange de la bonne cuisine. Et donc, ça, c'est tout à fait égoïste. Je peux également lui offrir le tout dernier Thermomix avec une toute autre intention. Celle de m'offrir moi-même comme cuisinier. Mon cadeau devient alors la promesse de lui faire de bons petits plats. Et là, cette fois, on se rend bien compte que c'est très généreux. L'action semble la même. Elle a un Thermomix pour Noël. Mais dans le premier des cas, elle n'a au fond qu'un appareil. Et aussi l'humiliation d'être utilisée, d'être considérée comme une servante. Dans l'autre cas, elle a cet appareil et plus encore l'honneur d'être aimée et servie. Les relations sexuelles dans l'éthique chrétienne s'apparentent plutôt au deuxième cas, vous avez compris. C'est le don de soi-même et pas simplement d'un peu de fluide corporel. On se livre soi-même et c'est parce qu'on s'est livré soi-même tout entier, émotionnellement, psychologiquement, socialement, que l'on s'unit physiquement. Et c'est la célébration de ce don de soi. Ainsi, n'offrez pas de relations sexuelles si vous n'êtes pas prêt à vous donner entièrement ou si vous ne vous êtes pas donné entièrement. Elles sont un cadeau réservé au mariage. Dieu a choisi le sexe comme moyen pour un homme et pour une femme de se dire « Je t'appartiens complètement, je t'appartiens exclusivement, je t'appartiens pour la vie. » Voilà ce que disent les relations sexuelles. « Je t'appartiens entièrement, exclusivement, je t'appartiens pour la vie. » Noël nous donne aussi... C'est la révolution de la sexualité. Évidemment, l'enseignement de la Bible, ce que je viens de vous partager, est certainement l'un des sujets qui choque le plus dans notre société. Et peut-être vous êtes choqués d'entendre ce que je viens de vous dire. De plus, l'Église, censée faire connaître cet enseignement, s'est révélée criminelle dans ce domaine, comme l'a révélé le rapport de Jean-Marc Sauvé, qui a fait état de 3000 à 4000 prédateurs sexuels parmi les prêtres et 300 000 enfants victimes, dont 80% de garçons, au sein de l'Église catholique de France entre 1950 et 2020. C'est une tache pour toujours et une blessure terrible pour toutes ces personnes. Mais l'éthique sexuelle chrétienne n'a jamais été vraiment populaire. Si le message vous choque aujourd'hui, sachez que les premiers lecteurs du Nouveau Testament étaient également choqués. Dans la société romaine du 1er siècle, les hommes avaient une femme pour engendrer des héritiers, et puis pour satisfaire leurs désirs sexuels, ils avaient aussi des maîtresses, des esclaves, et aussi commerce avec les prostituées. Mais Paul écrit en 1 Corinthiens chapitre 7, versets 2 à 5, « Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Ça, c'était la révolution. « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. » Ça, c'était révolutionnaire, de devoir quelque chose sur le plan sexuel à sa femme. Et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Ils étaient d'accord avec ça. Mais la révolution vient après. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Voilà la révolution. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Voilà encore une révolution. Profitez des relations sexuelles, ayez célébré votre mariage. Mais tout cela d'un commun accord. Noël et la venue de Christ ont révolutionné les relations conjugales en leur donnant une réciprocité. Et dans ce contexte, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 3 et 4, dit ceci : « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. » La débauche, c'est le sexe en dehors du mariage. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et ça, c'était révolutionnaire. Ici, on trouve la raison pour laquelle l'éthique sexuelle chrétienne est offensante pour beaucoup. C'est parce qu'on agit comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu, il dit ici. Comme des païens qui poursuivent dans la sexualité l'épanouissement et la satisfaction. Si vous cherchez dans la sexualité votre épanouissement, votre satisfaction personnelle, vous allez chercher très longtemps. Parce que vous ne serez jamais comblé. Et les gens poursuivent et goûtent toutes sortes d'expériences. Il faut toujours ajouter plus de conquêtes et plus d'expériences sexuelles. Et puis le cœur demeure toujours vide, toujours insatisfait. C'est comme avec l'argent, comme avec le succès. On n'en a jamais assez. Et ce qui montre que nous cherchons quelque chose de plus grand. Nous avons besoin de quelque chose de plus grand pour satisfaire nos cœurs. Notre cœur ne sera comblé que par Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle de Noël. Dieu se donne pour le monde. Dieu se donne pour que nous ayons une satisfaction pleine, entière, définitive. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont un mari, une épouse, et pour tous ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas de mari ou qui n'ont plus de mari ou d'épouse. La sexualité n'est pas indispensable. On voudrait nous faire croire que le sexe, c'est comme manger, boire et dormir. Si on n'a pas, on ne peut pas vivre, on ne peut pas survivre. C'est faux. Ce dont nous avons besoin, c'est Christ. Christ est suffisant. Parce qu'il est le seul qui puisse combler vos cœurs. Et vous qui êtes célibataire aujourd'hui, que vous n'ayez jamais été marié, ou que vous ayez été marié, que votre conjoint soit décédé ou parti, vous avez cette possibilité, en tant que chrétien, de dire au monde, Jésus-Christ me suffit. Jésus-Christ est suffisant pour ma vie. Ça ne veut pas dire que vous rayez définitivement la possibilité d'avoir un mari ou d'avoir une épouse. Mais pendant ce temps-là, réjouissez-vous de ce que Christ vous comble. Quand j'étais jeune, je ne sais pas, je parle comme un vieux schnock. Quand j'étais jeune, on disait que dans le domaine sexuel, ce sont ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Je ne sais pas si ça a toujours cours. Mais je crois en tout cas que cette expression se vérifie dans la génération actuelle. Selon des études récentes, les jeunes Américains ont moins de relations sexuelles que la génération précédente. Les jeunes qui sont aujourd'hui dans leur vingtaine seraient 2,5 fois plus abstinents que ne l'était la génération X à leur âge. Et cette tendance a vraiment inquiété les chercheurs qui craignent qu'elle ne traduise un mal-être profond dans cette génération. Il parle de sexe-récession. Récession du sexe. On ne fait plus l'amour chez les jeunes. De moins en moins envie d'avoir de relations sexuelles. À l'heure du sexe virtuel, de la pornographie, le christianisme, lui, fait l'éloge audacieux de la vraie sexualité. La Bible justifie la beauté des rapports sexuels dans le mariage. Et puis, Noël, c'est aussi l'offre d'une restauration de notre sexualité. Et ça, c'est ça la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Dans la généalogie de Jésus, on trouve un homme, Judas, qui est allé vers une prostituée. En réalité, c'était sa belle-fille veuve, Tamar, qui était déguisée en prostituée pour avoir un fils. Elle l'a eu par Judas, son beau-père. Il s'appelle Pérez. Quelle affaire ! On trouve également une ancienne prostituée cananéenne, Rahab. On trouve une femme abusée, Bathsheba, qui a enfanté Salomon par la suite. Elle a été abusée par un roi adultère qui avait déjà plusieurs femmes. Un roi menteur et meurtrier, David. Voilà à quelle lignée Jésus s'est identifié. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est pour racheter une race déchue que Jésus est venu à Noël. Il s'est incarné pour nous pardonner et pour nous faire grâce en mourant sur la croix pour nos fautes. Au verset 21, il est dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Voilà la bonne nouvelle de Noël. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, de notre désordre sexuel. On dirait que le domaine de la sexualité est celui où notre dépravation est la plus éclatante. Convoitise, pornographie, homosexualité, adultère, pédophilie, débauche. Aujourd'hui, la loi des hommes ne condamne plus vraiment ces péchés, hormis la pédophilie. Mais elle laisse de nombreuses victimes dans les larmes et de nombreux coupables dans la honte. La Bible condamne parce qu'elle connaît les blessures que provoque une sexualité vécue en dehors de son cadre. Le cadre du mariage, comme un feu en dehors de la cheminée. Un feu qui nous apporte chaleur, lumière, réconfort, romantisme. Si vous le sortez de cette cheminée, que vous le mettez au milieu du salon, il devient destructeur, meurtrier. Mais Dieu nous fait grâce. Il nous donne et il nous guérit de nos... Il nous sauve et puis il nous guérit de nos blessures et de nos travers sexuels, pour que nous puissions refléter dans nos vies et dans notre sexualité son plan rédempteur. Puisque le problème réside au fond du cœur, de notre cœur pécheur, hein, comme Matthieu le dit au chapitre 15, il dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, etc. » C'est notre mauvais cœur qui dénature et qui corrompt les plus belles choses comme la sexualité. Il ne s'agit pas simplement de suivre désormais une nouvelle éthique, de nouvelles règles au niveau de la sexualité. Bon, il faut certainement prendre des mesures qui nous préservent de chute, mais il nous faut avant tout un cœur nouveau. Vous avez peut-être déjà dit à Dieu, je ne le ferai plus. Pardonne-moi. Et vous étiez certainement sincère et déterminé. Mais votre cœur est demeuré le même. Aussi, lorsqu'une nouvelle occasion s'est présentée, vous avez reproduit les mêmes choses. Ce qu'il faudrait dire, c'est « Seigneur, je ne veux plus être cet homme-là. Je ne veux plus être cette femme-là. Je ne veux plus être comme cela. » Le problème n'est pas avant tout avec ce que nous faisons, mais avec ce que nous sommes. David, il a réalisé qu'il a commis un adultère parce qu'il est dans son cœur adultère. Il a réalisé, il a menti parce qu'il est dans son cœur menteur. Il a tué parce qu'il est dans son cœur un meurtrier. Et après avoir réfléchi à sa condition de pécheur, David, il écrit ce psaume 51, dans lequel il dit « Purifie-moi de mon péché. Purifie-moi de mon péché. » Et puis il continue en disant « Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il a compris que son cœur à lui ne peut pas faire les choses. Il dit « Seigneur, j'ai besoin d'un autre cœur, un cœur qui soit comme le tien, un cœur qui soit semblable au tien, qui soit transformé par toi. » Et puis il demande un cœur qui soit renouvelé. C'est pas simplement l'affaire d'un jour où « Seigneur, tu me donnes un nouveau cœur et ça y est, j'en ai fini avec ma débauche. » Mais j'ai besoin que tu renouvelles constamment dans ce cœur nouveau un esprit bien disposé. J'ai besoin de Christ tous les jours pour qu'il transforme mon cœur. Et c'est dans le cadre de cette relation permanente avec Christ que nous sommes renouvelés pour rester abstinents tant que nous ne sommes pas mariés et demeurer fidèles et serviteurs l'un de l'autre si nous sommes mariés. Si vous avez peut-être été victime d'abus, vous avez été blessé, trahi, vous avez été humilié, peut-être vous avez été trompé dans le domaine sexuel. Jésus est venu pour vous secourir, pour vous consoler, pour vous restaurer. Et dans le cadre de cette relation avec Christ, il le fera. Peut-être vous avez une sexualité désordonnée. Et j'aurais envie de dire, nous avons une sexualité désordonnée. Vous vous sentez coupable, honteux, incapable de changer, de résister à la tentation. Jésus est venu pour vous sauver. Pour nous sauver. Il nous pardonne, il nous lave, il nous transforme dans une relation quotidienne avec lui. Si vous le souhaitez, juste à la fin de cette rencontre, vous pourrez aller dans cette salle là-bas où on peut prier les uns pour les autres. Le message de Noël dit « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Et je trouve ça tellement encourageant dans le domaine de la sexualité. Si vous le souhaitez, vous trouverez des personnes, hommes, femmes, pour vous aider à vous décharger sur Christ dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour le message de Noël. Combien il nous encourage parce que tu n'es pas venu pour nous condamner. Tu n'es pas venu pour nous juger, mais tu es venu pour prendre sur toi notre condamnation, pour accomplir la justice de Dieu pour nous, pour que nous puissions vivre éternellement dans ta présence, pour que l'on puisse être délivré de la puissance du péché, de la corruption de nos cœurs, d'être transformé et changé à ta ressemblance. Et Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, pour que dans ta grâce, tu nous transformes, tu nous permettes de nous attacher fermement à toi et de chercher en toi seul notre satisfaction. Seigneur, tu as placé peut-être un compagnon, une compagne à nos côtés. Seigneur, pour qu'on puisse jouir l'un de l'autre, pour qu'on puisse célébrer ton plan éternel de rachat, d'amour inconditionnel, d'espérance, de fruits. Et Seigneur, nous te prions pour que nous puissions travailler à cela. Peut-être, Seigneur, d'autres ne sont pas encore ou ne sont plus des mariés. Et Seigneur, on prie pour que tu prennes soin de chacun, que tu leur rappelles que tu es suffisant, toi seul, pour combler nos cœurs et pour nous réjouir. Et Seigneur, nous te prions pour que chacun puisse glorifier ton nom pendant cette période, que ce soit en tant qu'époux, que ce soit en tant que célibataire, nous te prions pour que dans le domaine de notre sexualité, tu sois glorifié par Jésus-Christ. Amen.